Lorsqu'on pratique Zazen, on peut voir clairement que tous les éléments qui nous constituent, notre corps, notre esprit, ses différentes fonctions, telles que de percevoir des sensations, des formes, des pensées, que tout cela est tout à fait impermanent et sans substance fixe. Et donc, ne constitue pas un ego substantiel. Un moi qui demeure identique. On peut le comprendre, mais on l'oublie très vite. Et surtout, on en voit pas clairement toutes les implications. On n'en tire pas toutes les conséquences pratiques. À ce sujet, il y a un mondo célèbre entre Yoka et Maître Eno, le sixième patriarche. Yoka était parti pour rencontrer le sixième patriarche parce qu'il voulait comprendre quelle était vraiment l'essence du dharma de Bouddha, de son enseignement. Lorsqu'il arriva au mont Sekai, où se trouvait Eno, il se présenta directement sixième patriarche, sans respecter les formes traditionnelles. Il tourna autour du patriarche trois fois. C'est quand même une manière de lui rendre hommage. Puis il resta debout devant lui sans le saluer. Alors, Eno lui dit, le moine doit personnifier exactement les préceptes et les comportements justes. Que faites-vous de tout cela ? Il n'y a qu'à de répondre, je n'ai pas de temps à perdre. Le problème de la vie et de la mort est très important. Votre vie est éphémère, impermanente, sans cesse changeante. Tous les moines depuis Bouddha ont voulu résoudre ce problème intime de la vie et de la mort. Comment pouvoir être en paix, sachant que l'on va devoir mourir? Si on ne parvient pas à accepter pleinement notre impermanence et notre mort, alors cette non-acceptation empoisonne littéralement notre vie. Inversement, si l'on peut accepter cette impermanence, alors on peut trouver la véritable sérénité. L'impermanence, le changement, ne sont plus ce qu'on appelle le démon de Mujo, mais l'ordre naturel, le dharma, l'ordre cosmique. Et c'est cet ordre qui nous constitue. Nous ne sommes pas victimes de l'impermanence, nous sommes cette impermanence. Et cette impermanence elle-même est la nature de Bouddha. C'est elle qui nous permet de lâcher prise avec nos illusions et de nous éveiller. Sinon, on resterait condamné au non-éveil pour l'éternité. Quoi qu'il en soit, Eno répondit aussitôt, pourquoi ne réalisez-vous pas le principe de la non-essence pour résoudre ce problème de l'impermanence de la vie? En effet, c'est en se questionnant au sujet de la naissance que le Bouddha réalisa l'éveil. Pourquoi doit-on mourir? Parce que nous sommes nés. Mais qu'est-ce que ça veut dire, naître? Bien sûr, au moment de la naissance, un individu apparaît. On en déclare la naissance à l'état civil, on lui donne un nom. Peu à peu, il devient une personne. Mais en réalité, cette personne, même si elle a des caractéristiques particulières, qui la différencie des autres, n'est rien de séparé de tout l'univers. Chacun d'entre nous est constitué des éléments de tout l'univers. Rien ne nous appartient en propre. Notre propre ego est une construction mentale prélevée sur les cinq agrégats. Si on peut réaliser qu'à notre naissance, ce n'est pas un moi qui est né, un ego, quelque chose de substantiel, mais simplement une transformation de l'énergie cosmique fondamentale qui a pris la forme de notre corps, de notre esprit, mais sans jamais être séparé de tout l'univers. À notre naissance, ce n'est pas un ego qui est né, mais l'ordre cosmique qui s'est manifesté, qui a pris une forme particulière. Laquelle forme est impermanente et le restera. C'est tout à fait comme l'apparition d'une vague à la surface de l'océan. Bien que chaque vague ait une forme particulière, une vague est sans aucune substance fixe. Elle paraît se déplacer à la surface de l'océan. Mais d'un instant à l'autre, ce n'est plus la même vague. Les éléments qui la constituent ont changé. Donc une vague n'a aucune individualité fixe. par rapport à l'océan. Il en est le même pour nous, par rapport à l'océan du Dharma. Aussi, au moment où la vague se brise sur le rivage, on ne peut pas dire qu'elle meurt, de même qu'à aucun moment on peut dire qu'elle est née. Elle s'est simplement transformée. En retournant à son origine. Appliqué à notre existence, ça veut dire que, de même qu'à notre naissance, ce n'est pas un ego qui est né. C'est ce qu'on appelle le principe de la non-naissance, que le sixième patriarche invitait Yoka à réaliser. De même, à notre mort, ce n'est pas un ego qui meurt. Ce qui n'est pas véritablement né ne peut pas mourir. Ce qui disparaît, c'est l'illusion d'un ego séparé. Pratiquer Zazen permet de dissiper cette illusion. Sauf que on a beau l'entrevoir, éventuellement même le comprendre et l'expliquer, comme je le fais maintenant, on continue généralement à vivre et à penser comme s'il n'en était rien. D'où le sens de notre pratique est d'assimiler véritablement cette compréhension au point qu'elle nous transforme véritablement. Alors Yoka, qui a entendu la réponse d'Eno, lui dit « Lorsqu'on a réalisé la non-naissance et compris l'ici et maintenant, abruptement, c'est-à-dire dans l'instant présent, il n'y a plus rien. » Eno lui dit « C'est cela. » Alors, Yoka fit sa salutation de départ. Mais Eno lui dit, vous partez bien rapidement. Et Yoka de répondre, comment peut-il y avoir rapidité alors que le mouvement n'existe pas en réalité? Eno lui répond que tout soit mouvement ou non-mouvement, cela est un problème de conscience. Alors Yoka lui dit « Merci, j'ai compris ce que signifie la non-naissance. » Au fond, tout est un problème de conscience. Nous reconstruisons la réalité constamment en fonction de notre conscience. La réalité elle-même est insaisissable. Un peu comme la matière noire qui constitue, paraît-il, 90% de la masse de l'univers. Totalement insaisissable. Cela existe, mais c'est insaisissable. Mais on essaye de s'en faire une représentation consciente, de mettre le monde en concept, en équation. Alors Yoka répondit, merci, j'ai compris ce que signifie la non-naissance. comme il risquait de s'attacher à cette compréhension, Hénault lui dit « Il n'y a pas de signification, même dans la non-essence. » Alors Yoka d'ajouter « S'il n'y a pas de signification, il n'y a également personne pour comprendre. » Il avait compris plus profondément. Finalement, il n'y a pas d'ego pour comprendre. C'est le point ultime de la compréhension, de l'ego par lui-même. Alors au cas où il aurait pu se satisfaire de cette compréhension, Hénault lui répondit, comprendre n'a pas non plus de signification. Autrement dit, à chaque étape de ce mondo célèbre, le sixième patriarche tranche toute tentative de saisir quoi que ce soit, afin de parvenir à la véritable libération de l'esprit de son disciple. C'est ce que notre pratique de Zazen nous invite à faire constamment. Condition de ne pas s'endormir, de ne pas satisfaire de ce que l'on croit avoir compris. Mais d'en vérifier la réalisation dans notre propre vie, notre manière de penser, notre manière d'être.